Bien, nous pouvons nous suivre cette horloge, même si elle marque une heure de trop. Mais, donc, bienvenue. Ce séminaire, je le rappelle, est un séminaire à la fois du Collège de France et de l'École des hautes études en sciences sociales. Et j'avais choisi comme thème pour cette année, et pour ce semestre, puisque nous mènerons ce séminaire jusqu'au milieu de janvier, le thème « Comment lire un texte » qui a pour but finalement d'examiner différentes manières de comprendre, interpréter, analyser des textes, quels qu'ils soient, quelle qu'en soit la forme matérielle ou quel qu'en soit le genre discursif, et de le faire soit à partir de l'examen d'un certain nombre de propositions théoriques qui ont pu être forgées soit dans le champ de l'histoire de la critique littéraire, soit dans le champ de l'histoire intellectuelle et culturelle, ou aussi à partir d'études de cas et à partir d'études particulières de textes. Donc le but de ce séminaire est évidemment aussi d'aider ceux qui sont en train de travailler à la rédaction ou à l'analyse pour des mémoires de maîtrise ou des masters ou pour des thèses de leur proposer des outils, des instruments analytiques qui peuvent les aider dans leur lecture des textes et ensuite dans leur analyse du corpus choisi. Aujourd'hui, malheureusement, le séminaire ne durera qu'une heure parce que nous avons une réunion du collège que je ne peux pas manquer, mais à partir non pas du 11 novembre, mais de la semaine suivante, évidemment, notre format, c'est entre 16h et 18h. Et aujourd'hui, en termes d'introduction et un peu de jeu, j'avais pensé présenter quelque chose qui portait sur comment lire des textes qui n'existent pas. C'est-à-dire, évidemment, la question pourrait paraître banale, puisque la réponse immédiate à comment lire des textes qui n'existent pas consiste à dire « il suffit de les écrire ». Et à partir de ce moment-là, on peut dire que derrière tout projet d'écriture, quel qu'il soit, de fiction ou d'analyse, existe l'idée de donner existence à un texte qui n'existe pas ou pas encore, et qui, parce qu'on l'écrit, prend vie et devient un objet possible de lecture, y compris pour son auteur. Donc, réponse banale, mais ce sur quoi je voudrais porter l'attention est un cas un peu différent, c'est-à-dire la mise en abîme dans certains textes littéraires de cette présence de textes qui n'existent pas et que l'on découvre ou l'on fait naître. Le point de départ, évidemment, serait un motif très fondamental dans toutes les littératures, qui est celui du manuscrit découvert par hasard, dont l'auteur se fait le copiste ou l'éditeur, et de très nombreux romans épistolaires du XVIIIe siècle sont fondés sur cette fiction, un ensemble de lettres trouvées par hasard et dont celui qui est l'auteur du livre n'est en fait que l'éditeur des textes qu'il a rencontrés. Mais au-delà de cette fiction du manuscrit trouvé par hasard qui est la trame sur laquelle de la création s'installe, on peut penser qu'il y a une présence plus forte et au-delà du genre épistolaire ou du genre des mémoires et des journaux intimes trouvés par hasard dans la littérature. Et évidemment, pour faire un lien avec les cours de ce moment et puis d'autres des années passées, un point de départ quasi obligé pour nous et pour ce séminaire, c'est cette fiction-là telle qu'elle est maniée à l'intérieur de Don Quichotte de Cervantes. Puisqu'on a là le cas d'un texte qui disparaît. Vous vous souvenez peut-être qu'au chapitre 8 de l'histoire, publiée en 1605, s'engage un combat entre Don Quichotte et un suivant d'une dame qui est un biscaïen, et les deux hommes en viennent donc à un duel. Et c'est les derniers paragraphes du chapitre 8 du texte de 1605. Ainsi donc, Don Quichotte s'en venait, comme on l'a dit, contre le prudent biscayen, l'épée haute et décidée à le fendre en deux. Et le biscayen l'attendait tout de même, l'épée en l'air et abrité sous son coussin, et tous les assistants épouvantés étaient suspendus à ce qui allait advenir, à des grands coups dont ils se menaçaient. Et la dame du carrosse et toutes ses servantes faisaient mille vœux et promesses à tous les saints et sanctuaires d'Espagne pour que Dieu délivrât leur écuyer et elle-même du si grand péril où ils se trouvaient. Donc un récit qui s'esquisse de cette bataille entre Don Quichotte et le biscayen, et tous sont suspendus, les personnages de l'histoire et le lecteur lui-même. Mais le fâcheux de toute cette affaire est qu'en ce point et en cet endroit même, l'auteur de cette histoire laisse cette bataille en suspens, en donnant pour excuse qu'il n'a pas trouvé d'autres écrits sur les exploits de Don Quichotte que ceux qu'il rapporte ici. Il est vrai que le second auteur de cet ouvrage n'a pas voulu croire qu'une si curieuse histoire ait été sujette aux lois de l'oubli et que les esprits de la Manche aient été si peu curieux qu'ils n'aient pas gardé dans leurs archives ou dans leur cabinet quelques papiers traitant de ce fameux chevalier. Ainsi, dans cette pensée, n'a-t-il pas désespéré de retrouver à la fin de cette agréable histoire, et grâce à la faveur du ciel, il l'a retrouvée de façon qui sera comptée dans la deuxième partie du livre de 1605, et non pas la deuxième partie du Don Quichotte qui sera, elle, publiée en 1615. Et l'on voit qu'ici, on est devant la complexité de la diffraction de la fonction auteur à l'intérieur même du texte de Don Quichotte, puisque ce premier auteur dont il est fait mention et qui arrête son récit parce qu'il n'a pas les matériaux pour le continuer est évidemment l'auteur dont le jeu apparaît dans la première et fameuse phrase du livre « Dans un village de la Manche dont je ne veux pas me rappeler le nom vivait », etc. Et ce premier auteur est l'auteur des huit premiers chapitres dans la fiction de cette fonction auteur, des huit premiers chapitres du Quichotte, et interrompt brutalement son récit. Et il est question d'un second auteur, qui est celui qui va chercher à retrouver ce texte disparu, ou à retrouver un texte qui pourra combler l'absence du manuscrit du premier auteur. Et c'est ce second auteur qui, dans le chapitre 9, premier chapitre de la deuxième partie du livre divisé en quatre parties en 1605, qui se met en quête d'un manuscrit qui permettrait de poursuivre le récit, à commencer par le récit de la bataille entre Don Quichotte et le biscayen. Et reste assez suspendu aussi l'identité de celui qui écrit le dernier paragraphe que j'ai lu, qui parle du premier auteur, qui parle du second auteur, et qui est comme en surplomb par rapport à ces deux auteurs, le yo de no quiero recordarme de la première phrase, et d'autre part ce je du second auteur qui prend la parole dans le chapitre 9. Cela me causa un grand déplaisir, le fait que le récit ait été interrompu, car le contentement d'en avoir si peu lu se changeait en mécontentement quand je pensais au piètre chemin qui s'offrait à moi pour retrouver tout ce dont me semblait manquer un conte aussi plaisant. Et il y a donc un méta-auteur qui est l'auteur au-dessus du premier et du second et qui est celui qui énonce le dernier paragraphe du chapitre 8. Et comme vous le savez, au chapitre 9, le second auteur va rencontrer ce qu'il cherche, c'est-à-dire un manuscrit qui permet de donner existence à un texte qui n'existait plus. Ce passage fameux, comme j'étais un jour dans l'Alcana de Tolède, c'est une rue de Tolède de marchands merciers. Il arriva là un garçon pour vendre des cahiers et des vieux papiers, cartapacios, y papeles rotos de las calles, à un marchand de soierie. Et comme j'aime beaucoup à lire, fût-ce les papiers déchirés de la rue, les papeles rotos de las calles, poussé par cette inclination naturelle, je pris un des cahiers que vendait ce garçon et le vis avec des caractères que je reconnus être arabe. Et comme, tout en les reconnaissant, je ne savais pas les lire, je regardais s'il n'apparaissait pas dans les parages quelques morisques frottés de castillan. En fait, le texte espagnol dit « morisco ajameado ». Ajameado, c'était la population d'origine musulmane qui écrivait en castillan, mais dans l'écriture arabe. Donc ce manuscrit trouvé par le second lecteur est un manuscrit écrit en caractère arabe et il va s'adresser à Maurice, dont il sait qu'il connaît le castillan, c'était la définition même de l'écriture ou du genre jamiado, de lui qui a pu le lire, et je n'eus pas grand-peine à trouver semblable interprète. Car même si j'en avais cherché un d'une meilleure et plus ancienne langue, il fait allusion évidemment à l'hébreu, je l'en aurais trouvé, c'est-à-dire la population converso de Tolède. En fin de compte, le hasard m'en envoya un qui, lorsque je lui dis ce que je désirais, et mit le livre en main, l'ouvrit par le milieu, et l'ayant lu un peu, se mit à rire. Et à partir de là, le second auteur lui demande de lire ce qui le fait rire. Ainsi fit-il, et traduisant à l'impromptu l'arabe en castillan, il me dit que le livre s'appelait « Histoire de Don Quichotte de la Manche », écrite par Sidi Amete Ben Enreli, historien arabe. Il me fallut beaucoup de prudence pour dissimuler le contentement que j'éprouvais lorsque le titre du livre me parvint à mes oreilles. Et le récit va se renouer, et d'une façon d'ailleurs intéressante, puisque la première page qui est ouverte de ce texte de Sidi Amete Ben Enreli est un premier cahier peint au naturel. Et qui voyait-on ? Le combat de Don Quichotte avec le Biscayen, tous deux dans la posture même que raconte l'histoire, les épées levées, l'un couvert de sa rondache et l'autre de son coussin, et la mule du Biscayen si bien prise sur le vif qu'à un tir d'arbalète, elle sentait la bête de louage. Et ensuite, dans cette image, les personnages ont des légendes qui décrivent ou qui indiquent Don Sancho de Azpeitia, Don Quixote, Rocinante, et cette fiction d'une image qui ouvre le manuscrit de l'historien arabe est évidemment importante puisqu'elle est, on pourrait le dire, la première illustration du Quichotte, alors même évidemment qu'elle est une invention de fiction, mais l'histoire renouée du Quichotte commence avec une image, et cette image, elle fixe plus encore que le texte des 8 premiers chapitres la figure stéréotypée de Don Quichotte, si long et si étiré, si efflanqué et si maigre, si désespérément éthique et avec une telle échine qu'il montrait bien à découvert avec quel propos... Ceci était la description de Rocinante, qu'il montrait bien à découvert à quel propos et à quelle justesse on lui avait donné le nom de Rocinante. Il n'y a pas de description de Don Quichotte, sauf celle qui était dès le premier chapitre de la première partie. En revanche, il y a une description de Sancho qui, comme le montrait la peinture, avait le ventre gros, la taille courte et les jambes grêles. Donc, une forte stéréotypisation, au moins du cheval efflanqué et du gordo, du gros Sancho Panza. Et d'autre part, c'est un moment important que cette image, puisqu'elle va permettre de renouer avec le récit, leurs tranchantes épées dressées et levées haut, les deux valeureux et furieux combattants ne semblaient rien moins que menacer le ciel, la terre et l'enfer. Et donc, du coup, la fiction peut reprendre son cours, attribuer à ce manuscrit qui a comblé le vide, l'absence, le silence du manuscrit interrompu du chapitre 8. Et du coup, la structure du Quichotte jusqu'à la fin de la seconde partie, celle de 1615, dont je parle dans le cours le matin, va se trouver en place avec un récit qui est celui majoritairement de Sidi Amete Ben Enreli jusqu'à la toute fin, et d'ailleurs les derniers mots du dernier chapitre de 1615 sont donnés à Sidi Amete Ben Enreli qui s'adresse à sa plume en disant que plus jamais il ne la prendra pour narrer les aventures achevées de Don Quichotte, et d'autre part, comme en surplomb, un commentaire de ce qu'écrit Sidi Amete Ben Enreli, plus ou moins important selon les chapitres, parfois totalement absent, parfois totalement présent, et qui est une sorte de double registre d'écriture dans Le Quichotte, et on peut penser que ce surplomb, c'est peut-être le second auteur, celui qui a cherché puis découvert le manuscrit permettant de renouer l'histoire à partir du chapitre 9. Et Le Quichotte est peuplé de livres rencontrés par hasard et qui font la matière de certains chapitres. Évidemment, un des exemples les plus forts, c'est lorsque, dans l'auberge de Juan Palomeque, les personnages découvrent à la fois deux romans de chevalerie, une chronique historique imprimée, abandonnée là par un voyageur, et découvrent aussi quelques papiers manuscrits de fort belle écriture, qui sont en fait les 8 quadernos, les 8 cahiers de la nouvelle du curieux impertinent qui est insérée à l'intérieur du roman. Il y a donc, du roman pour nous, de l'histoire pour Cervantes. Il y a donc là un artifice littéraire qui acquiert dans le Quichotte, le manuscrit trouvé par hasard, une force toute particulière, spécifiquement parce que c'est à partir de cette fiction que se construit la pluralité superposée des voix d'auteurs à l'intérieur du texte. On peut se placer pour cette idée de donner existence à des textes qui n'existent pas du côté de certains auteurs contemporains. Il y en a deux qui ont attiré mon attention, ils me paraissent parmi les auteurs les plus importants dans le monde latino-américain aujourd'hui. C'est le premier, Roberto Bolaño, qui était un écrivain chilien et qui est mort à Barcelone, auteur d'une œuvre considérable. Et un livre est fascinant à l'intérieur de cette œuvre. Il a pour titre « La littérature nazie en Amérique, du Nord et du Sud ». C'est un livre qu'il avait publié qui a été publié en 1996 à Barcelone par Sex Barral et traduit immédiatement par Christian Bourgois dans son édition. Parce qu'il avait la grande passion pour Bolaño. Et ce livre est un véritable cauchemar dans lequel l'écrivain chilien Bolaño, exilé, cite, résume, commente 200 titres rangés par ordre alphabétique dans un épilogue qui est intitulé « Épilogue pour monstres » et qui range des noms d'auteurs depuis A jusqu'à… depuis la première lettre du titre, depuis A jusqu'à Z. Le premier livre s'appelle tout simplement A, et il a pour auteur un supposé Zach Sodenstern, et ce livre a été publié à Los Angeles en 2013, c'est-à-dire un jeu aussi chronologique, puisque, évidemment, des livres de 2013 existent déjà dans ce livre écrit et publié par Bolaño en 1996. Et le dernier livre, au moins dans la nomenclature de français, je n'ai pas retrouvé l'édition espagnole, a pour titre « Yeux tristes », donc le Y, et c'est un livre de Silvio Salvatico, paru à Buenos Aires en 1929. Et le corps du livre est de donner des notices biographiques sur ces auteurs de sensibilité nazie, au pluriel, parce qu'il y en a de plusieurs types, et donc du coup de permettre de resituer les ouvrages cités comme une sorte de bibliographie alphabétique des titres à l'intérieur de ce genre de courte bibliographie. Et évidemment, ces biographies sont tout autant imaginaires ou imaginées que les livres qu'ils sont, dont les auteurs sont supposément les écrivains. On peut prendre cet exemple, le dernier, Silvio Salvatico, cette biographie de cet auteur supposément né à Buenos Aires en 1901, mort dans la même ville en 1994, se rencontre avec trois autres sous un des rubriques « Précurseurs et adversaires des Lumières » et dans la fiction effrayée de Bolaño commence ainsi. Parmi ses propositions de jeunesse, donc cet auteur, Silvio Salvatico, on relève la restauration de l'Inquisition, les châtiments corporels et publics, la guerre permanente, soit contre les Chiliens, soit contre les Paraguayens ou les Boliviens, comme une forme de gymnastique nationale, l'extermination des Indiens pour éviter une plus grande contamination de la race argentine, la restriction des droits des citoyens d'origine juive, l'émigration massive en provenance des pays scandinaves pour blanchir un peu l'épiderme national assombri par des années de promiscuité hispano-indigène, la concession de bourses littéraires à perpétuité, l'exemption fiscale des artistes, la création de la plus grande force aérienne de l'Amérique du Sud, la colonisation de Antarctique, l'édification de nouvelles villes en Patagonie, et la dernière phrase, il fut footballeur et futuriste. Et l'auteur du premier livre, l'auteur A, du livre qui s'appelle « Ah !» Zach Soderstein, qui est né à Los Angeles en 1962 et qui est mort à Los Angeles en 2012. Donc le livre est publié à titre posthume, a été publié à titre posthume en 2013. Il appartient, lui, à une autre famille, puisque la taxonomie des auteurs nazis de Bolaño est bien organisée en fonction de classe, les écrivains de science-fiction, et lui, il est américain du Nord. Et il est l'auteur d'une saga à grand succès qui est la saga de Gunther O'Connor et du Quatrième Reich. Et le héros de cette saga est Flip, je cite, un berger allemand mutant et vagabond doté de pouvoirs télépathiques et de tendances nazies. Son roman de ce Zach Soderstein, qui a pour titre Les Simba, est, je cite, un crypto-manifeste contre les Noirs, les Juifs, les Hispano-Américains, qui fut lu de manière diverse et contradictoire. Donc, dans ce cas-là, c'est de faire surgir un monde de textes qui n'existe pas, qui acquiert un début, un commencement d'existence à travers le commentaire qui en est fait par Bolaño, qui se situe à l'intérieur d'un répertoire d'œuvres et d'auteurs terrifiants, qui n'existe que dans les cauchemars de l'écrivain chilien, mais évidemment dont la résonance et les ombres hantent cette Amérique à laquelle il fait allusion, c'est-à-dire essentiellement pour le Sud, l'Amérique des dictatures, et en même temps comme une menace sur le futur. C'est un livre, de ce point de vue-là, évidemment extraordinaire pour donner existence à des œuvres qui n'existent pas et qui ne devraient pas exister, selon le cauchemar de Bolaño. Ça, c'est une possibilité d'inventer une entière bibliothèque à l'intérieur d'une catégorie, en ce cas idéologique, littérature nazie, et il y a la peuplant de titres et d'auteurs. Une autre possibilité, qui est exploitée par un autre auteur latino-américain, lui argentin, Ricardo Piglia, qui est l'auteur de romans fondamentaux, mais en même temps qui est un auteur d'essai sur les genres littéraires, et un livre qui n'a jamais été traduit, qui a pour titre « Formas breves », qui a été publié par Anagrama à Barcelone en 2000. Et il y a un dernier chapitre tout à fait remarquable, dont le titre est « Nouvelle thèse sur le conte », et donc qui se voue au genre du conte, dans lequel Piglia se livre à un autre exercice pour faire exister des textes qui n'existent pas, c'est d'imaginer comment des auteurs bien réels, dans ce cas-là, pas comme les auteurs effrayants de Bolaño, des auteurs bien réels, auraient composé des histoires qui ont été écrites par d'autres. Le premier exemple, la première tentative, la première esquisse que doit faire Ricardo Piglia, c'est de partir d'un texte, là, dans ce cas-là, de Bergman, pour le film « Cris et chuchotements ». Et le texte de Bergman est le suivant. « D'abord, j'ai vu quatre femmes vêtues de blanc, sous la lumière claire de l'aube, dans une chambre. Elles se déplacent et se parlent à l'oreille. Elles sont extrêmement mystérieuses, et je ne peux pas entendre ce qu'elles disent. La scène m'a poursuivi pendant une année entière. Enfin, je comprends que les trois femmes attendent que meure une quatrième, qui est dans l'autre pièce. » Elle se relaye pour la veiller. C'est l'histoire, l'intrigue fondamentale du film de Bergman, Cris et chuchotements. Et l'exercice auquel se livre Piglia, c'est d'imaginer comment Hemingway aurait, lui, je cite, raconté une conversation ordinaire entre les trois femmes, sans jamais dire qu'elles se sont réunies pour veiller une de leurs sœurs qui se meurt, et d'imaginer que, au contraire, Kafka, je cite, aurait raconté l'histoire à partir du point de vue de la femme qui agonise et qui ne peut plus supporter le murmure assourdissant de ses sœurs qui chuchotent et parlent d'elle dans la pièce voisine. Donc la technique ici est de suggérer des textes qui n'existent pas, mais qui auraient pu exister et dont simplement sont esquissées des trames laissant libre cours à l'imagination du lecteur de Kafka ou d'Hemingway de déployer, de déplier cette histoire potentielle qui est donnée dans le résumé qu'en fait Ricardo Piglia. Dans le même essai sur le conte, Piglia respecte l'expérience en partant d'un autre texte, dans ce cas, qui est une des histoires que raconte Italo Calvino dans son livre « Six propositions pour le prochain millénaire ». C'est l'histoire d'un peintre chinois, Chuang Tzu, auquel son roi demande, ou son empereur, demande de dessiner un crabe. Pour le faire, Chuang Tzu demande 5 ans, puis il n'a de nouveau 5 ans avant de commencer à prendre son pinceau. Et dans un seul geste, il dessine le crabe le plus parfait qui se soit jamais vu. Alors du coup, sur cette histoire, Piglia imagine à nouveau comment Kafka aurait écrit cette histoire en imaginant que sur son lit de mort, le peintre aurait remis au roi un dessin fait depuis longtemps, qui était parfait pour tous, d'emblée, mais pas pour lui. Et dans le même mouvement, Piglia fait naître, à titre d'esquisse, d'ébauche, un texte de Borges, qui lui aurait transformé le crabe en papillon, et aurait écrit, et là il y a à la fois un texte qui n'existe pas et qui prend existence comme parodie d'un texte qui aurait pu exister, Chuang Tzu, c'est le Borges de Piglia qui est écrit, rêva qu'il était un papillon et il ne savait pas à son réveil s'il était un homme qui avait rêvé qu'il était un papillon ou un papillon qui maintenant rêvait d'être un homme. Et il esquisse du coup la trame d'un conte proprement borgésien puisque, dit Piglia, Borges aurait 2 histoires et il pourrait alors commencer à écrire un récit. Alors finalement, les deux références à Bolaño et à Piglia ramènent à l'auteur qui pour eux est une sorte de référence pour ces exercices-là de donner existence à des textes qui n'existent pas et qui est Borges lui-même, évidemment, puisque son œuvre est remplie de textes attribués à des écrivains qui auraient pu les écrire, ou bien à des auteurs aussi imaginaires que l'œuvre qu'ils sont supposément avoir écrite. Les deux lieux dans lesquels Borges se livre à cet exercice-là, de donner existence à des textes qui n'existent pas mais qui ont supposément existé, c'est la partie qui s'appelle Etc., une sorte d'épilogue dans la Historia Universal de la Infamia, l'histoire universelle de l'infamie, qui avait été publiée en 1935. Et on trouve là des brefs textes, supposément écrits par Swedenborg, extrait des Mille et une nuits, ou d'un livre qui est tout à fait réel, de Richard Burton, sur la région des lacs de l'Afrique équatoriale. Et encore, c'est dans cet appendice de textes qui n'existent pas, mais qui sont attribués à un auteur réel et ou à une œuvre réelle, que l'on rencontre une autre figure, c'est-à-dire celle d'un texte attribué à un auteur imaginé et qui est le court texte de la rigueur de la science et qui est si souvent cité puisque c'est le texte dans lequel est imaginé que la seule carte possible de l'Empire, c'est une carte qui a le format de l'Empire, c'est-à-dire une absence de toute distance entre l'objet et sa représentation, repris dans de nombreux autres lieux par Borges lui-même, et qui est attribué à Suárez Miranda, Viajes de Barones Prudentes, un livre supposément publié à Lérida en 1658, et qui évidemment est une invention de Borges. L'autre ensemble de textes qui relèvent du même genre, c'est-à-dire des œuvres inventées, attribuées à des auteurs réels, des œuvres inventées, attribuées à des auteurs eux aussi inventés, des pastiches d'œuvres d'auteurs réels et d'œuvres réelles, se rencontrent dans le livre qui s'appelle El Hacedor, traduit comme L'auteur, qui est un livre publié en 1960, et la dernière partie a pour titre Museo, musée. Et là, il y a 6 textes. Où reprend Borges le fameux de la rigueur de la science, et le supposé Suarez Miranda doit partager la paternité ou l'origine des œuvres inventées ou pastichées avec un poète uruguayen, avec un poète arabe du XIIe siècle, Al-Mu'tazim El-Maghribi, qui aurait composé un cabdra publié dans l'Appendice, ou encore avec Gaspar Camerarius, un auteur érudit du XVIIIe siècle, auteur d'un distique sur le regret d'Héraclite, ou encore un érudit allemand dans l'ouvrage duquel Borges aurait trouvé un poème qu'il aimait de ses sagas nordiques, le poème adressé par un roi irlandais à son ennemi vainqueur. Un jeu vertigineux de faux titres, de faux auteurs, de vrais titres pour de faux auteurs, de faux titres pour de vrais auteurs, qui donnent existence à des œuvres, à des fragments d'œuvres dont l'existence, évidemment, trouble le lecteur, puisque la frontière est toujours mouvante et mobile entre des œuvres attestées à l'intérieur d'un répertoire canonique et, d'autre part, ces œuvres qui surgissent à l'existence, attribuées à des auteurs réels ou fictifs. Les frontières sont constamment troublées entre l'imitation, le pastiche, la copie, l'invention. Et la force de cette capacité de donner existence à des œuvres qui n'existent pas et les faire passer comme si elles l'avaient existé, se voit dans l'essai d'autobiographie que Borges avait dicté à son traducteur à l'anglais, Giovanni, il indique qu'il avait publié dans l'Histoire de l'éternité, en 1935, un commentaire d'un livre paru à Bombay, écrit par un avocat indien, Mir Bahadur Ali, qui s'appelait « L'approche d'Al-Mu'tazim », et que c'était pour lui, il le dit, un canular et un pseudo-essai. Mais la référence à cet ouvrage était lestée d'un tel poids de réalité que beaucoup lurent, je cite, l'approche d'Al-Mu'tazim l'approche d'Al-Mu'tazim fut lue par ceux qui la prirent ce conte au sérieux, et un de mes amis commanda même un exemplaire de l'ouvrage à Londres. Et cet ami, persuadé de l'existence du livre présenté dans la note critique de Borges, était Oriol Casares. Donc, écrire des notes sur des livres imaginaires est une forme à la fois de les faire exister sans en déployer le texte, et d'autre part, un moyen, comme écrit Borges, un moyen sûr d'éviter le délire laborieux et appauvrissant qui est de composer de vastes livres, de développer en 500 pages une idée que l'on peut très bien exposer oralement en quelques minutes. Donc, on a là, dans la problématique à la Foucault entre la permanente prolifération des discours et les permanentes inventions de procédés pour les raréfier, pour les contrôler, pour les limiter. On a là un paradoxe, que pouvait-on attendre d'autre de Borges, c'est-à-dire que la prolifération de textes imaginaires est ainsi mise au service de la raréfaction des écrits qui sont envahissants, inutiles. On a là un ensemble, me semble-t-il, de perspectives, de réflexions sur les techniques et les raisons qui font inventer ces textes dont on suppose une existence, mais qui auraient été perdus, ou l'auteur fait advenir à la réalité. Ce serait sans doute à mettre en parallèle avec d'autres cas qu'on peut étudier et qui ont une signification importante aujourd'hui sur les discussions quant à l'effet de réel, l'illusion référentielle et tous les livres qui non seulement s'emparent du passé, mais s'emparent des techniques d'accréditation du passé au service d'une fiction. Et dans les séminaires, j'avais souvent évoqué cette biographie d'un peintre imaginaire, Josep Torres Campalans, qui a écrit un auteur espagnol réfugié au Mexique après la guerre civile, Max Aub, et qui met au service de cette fiction les techniques d'accréditation du vrai, photographies où l'on voit Campalans avec son ami Picasso, reproduction des tableaux peints par Campalans, mention de fragments de journaux d'interviews donnés par ce peintre avant la guerre de 14 à Paris, publication de son Quaderno Verde, de son cahier dans lequel il notait aphorismes, souvenirs, réactions. Donc, l'ensemble des documents qui attestent le réel et qui sont là mis au service d'une fiction. Et en même temps, c'est pourquoi un tel livre, et peut-être ce que je dis maintenant, peut être lu en parallèle avec les travaux des historiens sur les faux, les falsifications, et donc la capacité de la critique, de l'exercice critique à dévoiler le faux comme faux, peut être lu en parallèle avec cela, puisque dans le livre sont sommés de multiples avertissements pour le lecteur qui saura lire, pour le mettre en garde contre, ou le faire prendre plaisir à cette illusion référentielle qu'est la technique de mettre en rapport tous ces signes d'accréditation du vrai avec et au service d'une biographie imaginée. Ce qui m'intéresse aussi dans cette perspective, et peut-être comme cadre aussi pour notre séminaire, c'est non seulement donc toutes ces formes d'écriture qui font exister des textes qui auraient pu être ou qui ont été supposément écrits, mais c'est l'inverse, la figure inverse, c'est-à-dire le constat désolé, impuissant, devant la disparition, devant la perte des œuvres disparues à jamais. Et ici, évidemment, c'est sur la trame de ce continent d'œuvres perdues que, dans beaucoup de cas, on doit situer celles qui sont l'objet de nos lectures, plaisirs ou études. Et c'est évidemment le cas de l'Antiquité comme un immense continent d'œuvres disparues. C'est une réflexion ordinaire, mais qui a été poursuivie avec beaucoup de soin par Luciano Canfora, par exemple dans un article publié dans le livre « Le pouvoir des bibliothèques », un livre qui a été édité par Marc Baratin et Christian Jacob en 1996. Parce que ce que montre Canfora, c'est que pour les littératures au sens large, grecques et romaines, les différentes formes de sauvetage, les copies byzantines, les traductions arabes, ou que les manuscrits médiévaux n'ont transmis qu'une partie, parfois extrêmement réduite, de la totalité des œuvres dont le titre peut être connu à l'intérieur de listes de livres ou à l'intérieur de doxographies, de recueils, d'anthologies. Et Canfora, plus que d'autres, a montré les lois de sélection qui expliquent les taux différents de survivance dans ce que l'on connaît à travers les doxographes et des titres d'œuvres et ce que l'on connaît comme œuvre, qui à un moment donné, à Byzance, dans les manuscrits, dans les monastères occidentaux ou dans le monde musulman, ont donné lieu à une copie qui les a fait survivre. Canfora montre que, par exemple, pour l'historiographie, les pertes sont tout à fait considérables et ce rapport entre des textes perdus et des textes conservés serait de 40 à 1. Sont plus perdus que d'autres, évidemment, les textes les plus anciens et, point intéressant, souvent les œuvres intégrales plus vulnérables que les abrégés qui pouvaient avoir été multipliés dans les copies pour leur utilité immédiate. Et de là, la survie de beaucoup de ces textes de l'Antiquité qui ont la forme d'abrégés, de compilations d'extraits, de recueils doxographiques. Et poussant cette analyse, on peut montrer aussi que le geste même de la sauvegarde a pu lui aussi contribuer à des pertes. Je veux dire par là que les historiens de l'Antiquité ont souvent noté que pour une œuvre manquait une partie, un certain nombre de livres, entendu au sens de division du discours. Et la clé résiderait dans une analyse très technique et très érudite, paléographique, c'est-à-dire le fait que lorsque l'on a fait passer des textes de l'Antiquité qui étaient écrits sur des rouleaux à l'intérieur de codex manuscrits, il y avait comme le fait que plusieurs rouleaux pouvant correspondre à différents livres d'une œuvre se trouvaient rassemblés dans un seul codex, et si dans la série des codices qui correspondent à une œuvre, un a disparu, c'est les cinq premiers livres, ou les cinq derniers livres, ou cinq livres du milieu d'une œuvre qui ont du même coup disparu. Et de là que les lacunes à l'intérieur, y compris des œuvres qui ont pour partie survécu. L'importance de ces disparitions est considérable puisqu'elle suppose pour être mesurée que l'on ait au moins une liste de titres et dont on ne retrouve aucune existence sous forme de livre, mais on peut aussi penser qu'il y a des œuvres qui ont disparu en ne laissant ni livre ni titre. Et du coup, Canfora concluait cette analyse par la remarque « La disparition d'une telle quantité de livres, malgré l'ampleur de leur diffusion dans cet immense espace géographique, puisqu'il s'agit là de l'espace du monde grec et de l'Empire romain, est un phénomène presque unique dans la civilisation humaine. » Et donc un continent perdu d'ouvrages sur lesquels survivent les corpus canoniques qui ont été transmis par les copies arabes, byzantines, occidentales, carolingiennes, et qui ont défini progressivement, rétrospectivement, pour le Moyen-Âge ou la Renaissance, et pour nous, le corpus des œuvres de l'Antiquité, mais qui doit être corrigé par cette omniprésence de l'absence, c'est-à-dire par cette prise en considération différenciée selon les genres, selon les époques et aussi selon les modes de la composition même des textes en forme d'abrégés, d'extraits, d'anthologies versus les œuvres complètes dans leur déploiement séquentiel, et qui doit donc être différencié, mais qui néanmoins représente cette énorme perte. Alors, la question qu'on peut évidemment poser, c'est celle de savoir si cette disparition est, comme il le dit, un phénomène presque unique, et qui serait propre à l'Antiquité grecque puis romaine. On peut, à partir de là, réfléchir sur les raisons qui ont pu entraîner ces disparitions. Dans son essai, et puis c'était le lieu peut-être qu'on menait à cette conséquence, Canfora le lit à l'histoire tourmentée des bibliothèques publiques dans l'Antiquité, à partir du moment où elles ont pu être abandonnées, ruinées, détruites, les collections pillées. Donc il met en rapport cette histoire complexe et vulnérable des bibliothèques publiques avec la disparition d'une immense quantité de manuscrits. Et ceux qui survivent ou qui ont survécu à travers des chaînes de transmission appartenant le plus souvent à des bibliothèques de collectionneurs privés. Une autre figure, et qui a été aussi étudiée par Canfora dans un livre magnifique sur la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie, est la destruction volontaire. Et ici, on rencontrerait, pour lier un peu quelques aspects de cet exposé, on rencontrerait un précédent ou un référent, non pas un précédent, mais un référent, un équivalent chinois, à la fois historique et légendaire, indissolublement mêlé, le cas de l'empereur Qi Huang Ti, qui en 213 avant Jésus-Christ est supposé avoir fait brûler tous les livres qui traitaient des millénaires d'histoire antérieure à son règne. Et ce qui a fasciné dans l'histoire de Qi Huang Ti, c'est le fait qu'en même temps qu'il était cet empereur biblioclaste, destructeur de tous les livres qui auraient pu, d'une manière ou d'une autre, laisser supposer que l'histoire ne commençait pas avec son propre règne, c'est qu'il est aussi l'empereur qui ordonna la construction de la Grande Muraille. Et dans la l'historiographie ou dans le légendaire chinois, avec cette caractéristique que Foucault avait soulignée une fois en disant la Chine comme grande réserve d'utopie. Là, l'utopie, c'est la double utopie, l'utopie noire de la destruction de la totalité de la culture écrite et en même temps l'utopie grandiose de la construction d'une muraille qui, comme dans le texte de Borès, est aux dimensions du pays, ou potentiellement aux dimensions du pays. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on trouve dans un recueil de textes de Borès de 1952 qui s'appelle Otras Inquisiciones, les autres inquisitions. On trouve cette réflexion sur le lien possible entre ces deux gestes, brûler tous les livres et construire des fortifications à l'échelle, à la taille du pays. Je cite, brûler les livres et construire des fortifications est la tâche commune des princes. Il n'y eut de singulier chez Xin Wangti que l'échelle sur laquelle il opéra. Et là, l'échelle, ici, renvoie à cette intention paradoxale qui peut être derrière ce double projet, brûler les livres, construire les murs. Je cite encore les autres inquisitions. Qi Wangti, peut-être, entoura l'empire d'une muraille parce qu'il le savait périssable. Et il détruisit les livres dans la pensée que c'était des livres sacrés, c'est-à-dire des livres qui enseignent ce qu'enseigne l'univers entier ou la conscience de chaque homme. C'est-à-dire que les livres peuvent être détruits parce que le savoir qu'ils communiquent est éternel et qu'inversement, que la muraille vouée à l'éternité est à construire parce que l'empire est périssable. Et c'est sur cette sorte de chiasme ou de double paradoxe que Borès termine cet essai. Et finalement, ouvrant à un autre thème qui, avec d'autres, l'a beaucoup préoccupé ou obsédé, le thème qu'on rencontre dans Curtius, dans la littérature latine du Moyen-Âge, c'est-à-dire cette idée que le livre peut être périssable, peut être détruit, parce qu'il est une métaphore d'autres livres qui, eux, sont éternels. D'une part, le livre de la nature, et ce n'est pas simplement une métaphore des la philosophie naturelle du XVIe siècle, très fréquente chez Galilée, c'est une métaphore qui est déjà présente dans la scolastique médiévale. Chez Bonaventure, par exemple, Dieu a écrit deux livres, au recto et au verso, d'un même rouleau ou d'un même codex. Mais dans ce cas précis, c'est une référence au rouleau qu'emploie Bonaventure, le livre qui est la Bible, et d'autre part, le livre de la nature. Et prolongeant cela, la métaphore du livre utilisée dans la première modernité peut détacher la vérité des textes de la matérialité des objets à partir du moment, comme le dit Borges, des livres qui enseignent ce qu'enseigne l'univers entier ou la conscience de chaque homme. Et alors, le livre identifié à la conscience peut avoir une définition, une perspective à l'intérieur de l'économie du péché et de la rédemption, dans le cas chrétien, mais aussi peut-être ce livre qui est écrit en chaque individu et qui par là même est au-delà de la contingence, de la matérialité des objets. On a là un contrepoids ou un contrepoint à l'exceptionnalité de l'Antiquité grecque et romaine qui est donnée. Je ne suis pas spécialiste de l'histoire de la Chine, il faudrait évidemment prolonger l'étude avec érudition et savoir, et je suppose que ça peut être été fait, sur quel a été réellement l'effet de cette décision prise par Chi Wangti en 213 avant Jésus-Christ, la destruction de tous les livres antérieurs à son règne. Mais je pense qu'il y a quelque chose de parallèle au raisonnement de Canfora doit être ou a été construit pour le monde chinois. Mais plus près de nos intérêts ici, à l'intérieur de une perspective d'histoire moderne, on pourrait trouver des exemples plus limités et plus circonscrits à certains genres discursifs dans lesquels la même question, qui est liée à la question comment lire un texte en sachant que beaucoup de textes qui lui étaient semblables ont disparu à jamais. C'est cette situation. Elle existe pour un certain nombre de genres où que la publication, quelle qu'en soit la forme, pour nous en général imprimée, mais même sous la forme de copie manuscrite, n'est pas intrinsèquement liée avec le dessin du genre. Et évidemment, je passe à ce qui nous occupe dans le cours le matin, c'est-à-dire le texte de théâtre. Il est clair que seule une partie des pièces qui ont été écrites et représentées ont survécu sous une forme ou sous une autre, c'est-à-dire sous la forme d'éditions imprimées ou sous la forme de manuscrits uniques ou multipliés par la copie. L'exemple le plus symptomatique et le plus paroxystique de cette situation et l'Angleterre des XVIe-XVIIe siècles, entre les années 1570 et 1640, avec la Révolution ou la guerre civile, comme on voudra, qui fait fermer les théâtres. Une comparaison méticuleuse a pu être établie, un peu à la manière des travaux sur l'Antiquité, en comparant le nombre de pièces dont le titre est connu dans une source ou une autre, par exemple dans le livre de contes d'un entrepreneur de théâtre qui tient pour chaque jour, entre 1590 et 1609, la comptabilité des pièces qu'il a commandées et payées à un certain nombre de dramaturges, qui s'appelle Henslow, donc il donne des titres, ou bien encore dans les registres de la Compagnie des libraires et imprimeurs de Londres, où certains libraires ou imprimeurs font enregistrer un « writing copy », qui était le terme de cette époque, sur des œuvres de théâtre, mais qu'ils ne vont jamais faire imprimer. Ou encore des titres qui sont mentionnés dans des correspondances, des mémoires, des journaux personnels. Donc on peut constituer, et cela avait été constitué dans un ouvrage qui a été réédité en 1989 et qui a pour titre « The Annals of English Drama », le premier auteur en étant Alfred Harbage, et puis ensuite pour la réédition, la troisième édition, aidée par Samuel Schoenbaum et Sylvia Stoller-Wagenheim. Donc, un énorme répertoire de titres d'œuvres, et face auxquels on peut mettre en rapport les œuvres telles qu'elles ont été conservées, soit dans au moins une édition imprimée, ou bien dans certains manuscrits qui ont pu être conservés. Les historiens peuvent varier sur le résultat, parce que souvent, est-ce que le titre est deux titres pour une même pièce, puisque très, très, très souvent des œuvres ont un titre puis un sous-titre. Donc il y a des variations possibles, mais le résultat le plus sûr, me semble-t-il, avait été donné par Douglas Brooks dans un livre publié en 2000 qui s'appelle From the Playhouse to the Printing House. Depuis le théâtre jusqu'à l'imprimerie, Drama and Authorship in Early Modern England. Il repère environ, pour la période 1576-1642, 1200 titres qui sont enregistrés dans les Annals of the English Drama. Et en comparant avec les pièces qui ont survécu, des textes qui existent, que l'on peut lire aujourd'hui, on voit que seulement 40% de ces titres sont aujourd'hui lisibles dans une forme ou dans une autre, sous la forme de pièces qui ont survécu. En général, donc, 90% des cas dans des exemplaires ou un exemplaire d'une édition imprimée, et dans d'autres cas, dans l'existence d'un manuscrit avec une variété de possibilités sur la nature de ce manuscrit, la plupart étant soit des manuscrits qui ont été utilisés pour la représentation, ce que l'on appelle plan de book, et qui servaient à marquer les entrées des personnages, donc des acteurs, les moments où la musique devait « flourish », comme on dit dans ce type de document, un minimum d'indications scéniques. Donc, c'est une des sources possibles pour des pièces qui n'ont jamais été ensuite imprimées, ou bien parfois dans des copies au propre qui ont été faites à partir de ce manuscrit ou du manuscrit de l'auteur pour des personnes qui étaient liées à la troupe de théâtre, en particulier des patrons, des protecteurs aristocratiques. On voit donc que 60% des pièces dont on sait qu'elles ont été représentées ont disparu. Et donc, du coup, cela donne une perspective sur l'état du corpus disponible. Et on pourrait d'ailleurs pousser cet argument de deux manières en pensant à Shakespeare. D'une part, la possibilité aussi que certaines éditions imprimées, surtout dans le format in quarto, qui suivait les représentations et qui est un format non relié, qui n'a pas un livre, mais qu'on désignait au XVIe siècle dans le monde des libraires et éditeurs comme pamphlets, brochés simplement, ont pu disparaître. C'est-à-dire qu'il y a aussi un taux de disparition de textes qui ont été représentés, qui ont été imprimés, mais dont tous les exemplaires de la seule édition auraient disparu. C'est un cas très fréquent avec les livres ou les livrets qui composent les répertoires de la littérature populaire, de la Bibliothèque Bleue, de Los Pliegos de Cordel ou des chapbooks en Angleterre. Et un des cas qui pourrait illustrer cela est le fait que la première édition d'Hamlet de 1603 a été durablement connue par un seul exemplaire, sa seule édition. Et un second exemplaire a été découvert. Donc, il y a aussi dans cette question des disparitions le fait que l'imprimé n'est pas une protection absolue contre la disparition. Et on pourrait multiplier d'autres exemples, et non seulement pour les corpus populaires, par exemple le livre fondamental de Balthazar Gracián, Oraculo Manual y Arte de Prudencia, a été conservé, on en a découvert un second exemplaire récemment pour l'édition de 1657, seulement en un seul exemplaire qui avait survécu à la disparition de tous les autres exemplaires de la même édition. Donc on a cette vulnérabilité qui est non seulement liée au fait que le théâtre n'est pas nécessairement fait pour être imprimé, mais même que, une fois imprimé, il peut y avoir, pour des raisons qui débordent le théâtre, sauf qu'elles se lient au fait qu'il s'agit d'éditions, sauf pour l'Oraculo Manual, d'éditions qui ont une nature qui est plus éphémère et plus fragile, alors disparition. Et la seconde réflexion qu'on peut faire, c'est le fait que pour des œuvres les plus canoniques pour nous, dont il serait pratiquement impensable qu'elles auraient pu ne pas nous arriver, c'est parfois une décision qui a pu les rendre accessibles. Le premier livre, au sens typographique, qui rassemble des œuvres de Shakespeare, le folio de 1623, comporte 36 ou 37 pièces selon les exemplaires, et la moitié de ces pièces n'avaient jamais été imprimées auparavant. C'est-à-dire que sans l'initiative des ex-camarades de théâtre de Shakespeare, Hemings and Condell, qui étaient aussi acteurs dans la Compagnie du Roi, et qui étaient aussi propriétaires, shareholders de la compagnie, il est tout à fait vraisemblable que la moitié du corpus shakespearien, et parmi cette moitié des pièces, en particulier des comédies extrêmement fameuses, auraient totalement disparu et n'auraient été connues que par éventuellement des titres rencontrés dans tel ou tel des documents. Donc j'ai voulu commencer aujourd'hui par cet exercice, à la fois pour montrer qu'on peut dans ce séminaire jouer sur les relations non seulement entre critique littéraire et histoire culturelle, mais même dans une certaine mesure de mobiliser la littérature elle-même à propos des instruments nécessaires pour la lire, et d'autre part de montrer qu'il nous faut souvent rétablir par rapport au corpus canonique qui, par définition, nous semble celui qui représentait un état d'un genre ou une totalité d'une littérature, réintroduire cette figure du texte et de l'œuvre disparue et du coup en prendre dans certaines situations historiques ou pour certains genres particuliers une juste mesure. C'est un effort qu'on pourra poursuivre dans les autres séminaires, c'est-à-dire finalement un effort qui vise à réintroduire l'historicité dans notre rapport avec les textes, quels qu'ils soient. Ici, une historicité brutale et massive qui est celle des continents textuels évanouis. Mais peut-être je commencerai avec cela la semaine, dans 15 jours, puisque c'est le 11 novembre, jeudi prochain, une historicité qui porte aussi sur notre manière de lire en rapport avec une manière de composer les textes. Et donc, du coup, d'essayer de comprendre comment, à la fois, nous sommes dépendants et prisonniers des catégories qui, pour nous, définissent, par exemple, le texte littéraire et que nous projetons à travers rétrospectivement, à travers les siècles, et en même temps d'être sensible au fait que, à un certain moment du développement historique, se sont définies, cristallisées et liées des notions qui ont leur propre historicité, et que peut-être elles nous ont légué notre répertoire et notre lexique d'analyse, mais en même temps, elle crée un porte-à-faux, elle crée des effets d'anachronisme avec des textes qui ont été conçus, circulés et lus dans des schémas de compréhension, des paradigmes d'interprétation totalement différents. Donc l'effort, finalement, du séminaire serait, sinon d'effacer les anachronismes, mais du moins de les rendre conscients et à partir de ce moment-là, de mener des opérations de lecture et d'interprétation qui sont évidemment celles que nous pouvons et devons faire, mais en même temps qui incluent en elles-mêmes le sentiment de la distance, de l'étrangeté et de la différence. Donc on pourra reprendre ça, si vous le voulez bien, dans le jeudi qui suivra, le 11 novembre. Et on pourra aussi, dans certaines séances, ouvrir une discussion. Aujourd'hui, malheureusement, comme je dois me rendre à cette réunion, c'est impossible, mais vous pouvez penser à des questions possibles, et sinon à écrire des textes qui n'existent pas encore.